Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'épître de Paul aux Romains et au chapitre 13. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 13. Et nous allons lire les versets 8 à 10. Donc, Romains, chapitre 13, les versets 8 à 10. Vous allez peut-être le voir, première lecture, on va lire ce passage et on va dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est clair. C'est vrai que c'est clair. Hein, et là, on vient de chanter, parce que c'est un passage sur l'amour, et on vient de chanter combien nous aimons le Seigneur. Aimons-le assez pour vivre pour lui, hein, n'est-ce pas? Alors, Romains chapitre 13, et je commence la lecture au verset 8. Il ne devait rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est vrai que quand on aime quelqu'un, on risque pas ni de le tuer, ni de prendre son partenaire, ni de prendre son bien, ni même convoiter son bien. On est heureux pour lui. Hein, C'est vrai. Mais vous savez, en prenant ce passage, et je me suis arrêté là-dessus, j'ai dit, mais je lis ce passage, mais pourquoi il l'a mis ici? Parce qu'on vient de voir dans ce chapitre 12, il dit, nous sommes dans un corps, nous sommes membres d'un corps, nous allons travailler ensemble, tout ce que nous faisons, c'est pour le bien de l'autre. Il nous exhorte en tant que membre du corps et la relation, le comportement qu'on doit avoir avec les autres membres du corps de Christ. Puis ensuite, il nous a parlé du comportement que nous devons avoir avec le monde de l'extérieur. Et puis, dimanche dernier, nous avons vu comment, par rapport, même l'attitude à avoir par rapport au gouvernement humain, hein, qu'on l'approuve ou pas, mais il y a un comportement à avoir qui honore Christ. Et après avoir dit tout cela, eh bien, il y a quelques versets sur l'amour. L'amour, aimer les uns les autres. Je dis, pourquoi il met ça à la fin? Normalement, moi, dans ma tête, j'aurais commencé par l'amour, et puis après, on traite les détails. Mais nous allons voir. C'est quand même l'Esprit de Dieu qui l'a conduit de cette manière. Dans ce passage, la première remarque que je veux faire, c'est que l'apôtre Paul fait mention des commandements, hein, ce sont des commandements tirés des 10 commandements, hein, de Moïse. Et tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, c'est les 4 derniers. Hein. Et vous savez, il ne les met pas dans un contexte où ces commandements sont une charge qu'on impose sur quelqu'un, mais il les met dans le contexte de l'amour. Et en fait, c'était le contexte, c'était la sphère que Dieu avait prévue dès le début, hein, parce que même dans Lévitique 19, verset 18, il nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel ». Donc c'est depuis toujours, les commandements sont là, pas comme une loi qui pèse et qui nous crée des problèmes, et puis finalement sont là, c'est pour nous culpabiliser. Mais c'est dans le contexte de l'amour, c'est toujours dans l'amour. Et bien sûr, les 10 commandements sont beaucoup plus faciles à garder quand on aime et quand c'est dans le contexte de l'amour. Et c'est là qu'il faut le laisser aussi. Hein, c'est que ces commandements sont là, mais si d'abord tu as l'amour, après le reste est plus naturel. Nous parlons toujours de 10 commandements, et tout le monde sait qu'il y a 10 commandements, qu'ils aient vu le film de Hollywood, ou qu'ils aient fait leur catéchisme, ou qu'ils aient... on a tous entendu parler des 10 commandements de Moïse. Mais en fait, Il n'y a qu'un seul commandement qui se décline en deux paroles, hein, en deux parties. Et Jésus a approuvé un résumé qu'a fait un docteur de la loi qui a dit, dans Luc chapitre 10 et verset 27, il a dit, voilà comment il a résumé les 10 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Il dit, tout est là. Et Jésus a dit, tu as bien dit. Ce que tu as dit, c'est très vrai. Hein, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, il n'y a pas de place pour un autre Dieu. Et tu lui donneras tout ton temps, toute ton attention et ta vie. Et puis, si tu aimes ton prochain comme toi-même, eh bien, tu ne risques pas de prendre ni son bien, ni son partenaire, ni de le tromper, ni de désirer quoi que soit qu'il ait, hein, de le prendre de lui. Mais c'est vrai que tout est là. Hein, donc en fait, et même dans Jacques, il pousse la chose encore plus loin dans l'épître de Jacques. Et puis il nous dit que si tu enfreins un commandement ou une déclinaison, hein, donc on dirait qu'il y a un commandement avec 10 déclinaisons, mais tu enfreins un seul commandement, tu es coupable de tous. Pourquoi ? Parce que tu désobéis à celui qui a donné le commandement. Ce n'est pas le fait du commandement, c'est le fait que tu désobéis à celui qui a donné le commandement. Et celui qui a donné le premier commandement, c'est celui qui a donné le deuxième, c'est celui qui a donné le quatrième, c'est celui qui a donné le dixième. C'est la même personne. Alors, peu importe, quel que soit le commandement qu'on n'ait pas respecté, eh bien, Dieu dit, tu m'offenses. Hein, regardez, avec moi dans Jacques. Hein, regardez, Jacques chapitre 2 et verset 8 à 11. Jacques chapitre 2, verset 8 à 11. Il dit, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché et vous êtes condamné par la loi comme transgresseur. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Donc, vous savez, chez les hommes, souvent on se dit, mais moi, j'ai jamais tué quelqu'un, j'ai jamais volé une banque, j'ai jamais ceci, cela. Et oui, mais peu importe, tu as gardé même 9 des 10 commandements, mais s'il y en a un que tu as désobéi, tu es coupable. Parce que tu as désobéi à celui qui a donné le commandement. Et donc, il prend, et dans la justice humaine, c'est un peu différent. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre la justice humaine et l'appliquer à Dieu. Hein. Dieu a sa justice, sa manière de voir les choses. Et chez les hommes, dans notre société, on a une autre manière. Hein. Dans notre société, eh bien, en fait, si tu commets un crime, hein, un meurtre, c'est plus grave qu'un adultère. Un adultère, c'est plus grave que voler. Et voler, c'est plus sérieux que mentir. Et cela, c'est parce qu'on évalue en fonction du... La gravité dépend, du tort qui a été causé. Hein, donc, c'est dans notre justice humaine, c'est bon si ça fait très mal ou si ça fait moins mal, donc, et on juge comme ça. Mais pour Dieu, il dit, non, ce n'est pas une question de dégâts que tu as causé, c'est une question de qui, à qui tu as désobéi. C'est pour ça qu'il peut dire qu'une infraction de n'importe lequel des commandements, eh bien, est une désobéissance contre Dieu et une violation de la loi royale qu'il dit, celle « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Hein, donc, je sais que souvent on a essayé avec mon père, on a essayé de lui dire « mais j'ai rien fait, je lui ai rien fait ». Il dit « oui, mais c'est justement pour ça, tu aurais dû l'aider ». Oui, c'est pas. Il y a le. Et peut-être vous avez entendu le péché de commission et le péché de omission. Hein, et puis après, jeudi soir, on soulignait le fait que l'ignorance n'était pas une excuse. Hein, et même dans la loi humaine, hein, en France, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Hein, vous dites au gendarme, mais je ne savais pas. Ça ne va pas loin pour lui. Hein, ça ne change rien. Il a dit, je l'ai entendu déjà et ça ne marche jamais. Hein, et avec Dieu, c'est pareil, hein, c'est à nous de savoir. Il dit, mais animé de l'amour, notre vie sera autre. Revenons à notre passage là, maintenant, Romains chapitre 13 et verset 8. Vous avez remarqué ce qu'il dit, le verset 8. Il dit autrement qu'on l'aurait dit. Il dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ne devez rien à personne. Pour Paul, le fait d'être endetté, eh bien, c'est un problème d'amour pour le prochain. Il parle de celui qui emprunte et non de celui qui prête. Vous savez, en général, quand on parle de l'amour, on parle de toujours celui qui prête. On dit, ouais, ben, il doit aimer, hein, il faut qu'il prête. Mais Paul est en train de dire, mais celui qui emprunte doit aimer aussi, doit manifester de l'amour. Et c'est plus rare qu'on parle. Il parle de, naturellement, nous rapprochons la générosité à l'amour. Hein, tu es généreux, tu partages, c'est l'amour. Mais Paul nous rappelle que rendre ce qui a été emprunté est une expression d'amour. Parce que j'ai ce que tu as, ce qui est à toi. Et je t'aime, donc je te le rends dès possible, hein, dès que j'ai promis. C'est un geste d'amour aussi, c'est un montre de respect. Vous vous souvenez de la première réaction de Zachée, hein, le publicain. C'était bon, un collecteur d'impôts, il avait certainement payé très cher pour avoir ce poste, mais c'est un poste qui rapportait beaucoup quand on savait qu'on pouvait tromper et percevoir plus que ce qui était nécessaire, et là, il s'était fait une bonne vie. Mais quand il a reçu Jésus-Christ dans son cœur, quand Jésus... Les paroles de Jésus ont pénétré son cœur. Vous savez, la première réaction qu'il a eue, c'est rendre. Il a dit, je rendrai à tous ceux dont j'ai trop perçu, je leur rendrai. Et en plus, il l'a fait selon la loi de Moïse, où on rendait le quadruple. Hein, c'est quatre fois. Ça couperait l'envie de voler. Hein, ça. C'est, vous volez une voiture, il faut en rendre à quatre. Aïe, on ne vole plus les Porsche. Hein. Ça couperait l'envie. Les prisons, ça se viderait très vite. Hein. Mais il dit, remarquez la première chose, la première pensée qu'il a eue, c'est de rendre ce qui appartient à quelqu'un. La première réaction de l'œuvre de Dieu en lui, c'est de rendre. Et peut-être que celui qui a emprunté ne voit pas qu'il y a un vol. Mais pour celui qui a prêté et à qui la chose n'est pas rendue au jour promis, cela devient l'équivalent d'un vol parce qu'il l'a plus. Hein, c'est quand même... on ne le voit pas toujours comme ça, on ne le soulève pas, mais l'apôtre Paul est en train de mettre les choses dans le contexte. Il dit, l'amour, ça va dans les deux sens, dans celui qui reçoit et dans celui qui donne. Celui qui prête et celui qui emprunte. L'emprunteur doit rendre au prêteur, quel que soit son degré le degré de richesse, le degré de sa générosité, ça c'est pas ton problème, hein, peu importe. C'est pas à toi de juger s'il en a besoin, il n'a pas besoin, il s'en sert, il s'en sert pas, c'est pas ton problème, à partir du moment que c'est à lui. Hein, et donc, je rends et je me libère de cette dette, hein, je le rends, je me libère afin de pouvoir aimer. Hein, ça me permet d'aimer. Savez, souvent, j'ai eu des gens qui vont vouloir emprunter, je dis, écoute, je t'aime trop pour te prêter. parce que j'ai peur de te perdre. Hein, combien de fois il y en a, et puis après il ne rentre pas, donc après il ne veut plus voir, parce qu'il ne veut pas faire face, et puis après il disparaît, et puis après... Et on perd un ami pour des bricoles. Hein, c'est... Mais le Seigneur, il dit, ne dois rien à personne, libère-toi, afin de pouvoir aimer. Hein, comme ça tu payes tes dettes, comme ça tu peux marcher à tête haute, tu crains personne. Hein, tu peux croiser n'importe qui sur le trottoir. Tu peux voir n'importe qui à l'église. Tu dis, je n'ai pas rendu, donc bon, là, je ne vais pas y aller dimanche, hein, parce que sinon, ils vont me demander encore. Écoute, libère-toi le plus tôt possible pour pouvoir aimer et pouvoir être libre d'appliquer l'amour de Jésus-Christ qui est en nous. Oui, bon, lisons le psaume 15. Le psaume 15, il nous donne une bonne idée de ce que c'est que la vie chrétienne, et c'est déjà dans l'Ancien Testament. Le psaume 15... On va lire tout le psaume. Le psaume 15 est un psaume de David. Apparemment, il vivait dans le même monde que nous. Il dit, « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera dans ta maison sainte ?» Voilà, hein, qui va pouvoir être dans ta présence, vraiment jouir de ta présence, être dans la communion avec toi? Qui pourra le faire? Eh bien, au verset 2, il dit « Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point. S'il a fait un serment à son préjudice, c'est-à-dire qu'il s'est engagé, il a dit je te le rends dans une semaine. Hein, il ne se rétracte point, il respecte, il n'exige point d'intérêt de son argent, il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Dis, tu veux vraiment libre pour être libre et marcher. Et tu ne crains personne, tu peux faire face à n'importe qui, tu ne baisses pas les yeux devant personne, hein, on est toujours en train de... Eh bien, l'amour. Que tous tes actes soient dans le contexte de l'amour, l'honneur de Dieu, tu n'as plus de dettes, tu marches libre. Oh, peut-être pas grand-chose, mais tu marches libre. Et ça vaut beaucoup pour un être humain. Hein. Aimer, c'est un sentiment qui motive des actes. Et ces actes, ces actes d'amour, ça coûte toujours, un acte d'amour. Vous savez, le disciple Pierre, il soulève une question sur les limites de l'amour. Il veut fixer un peu des limites quand même. Et il ose dire, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce 7 fois ?» Et puis je pense qu'il est content un peu de lui, il n'a pas honte de dire ça. Hein. Je pardonne 7 fois, hein. C'est quand même, c'est pas mal, hein. Et je crois qu'il est, il est un peu fier de lui quand il le dit. Mais vous savez comment Jésus répond? Il dit, je te dis, pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ben Pierre, il a dû se cacher derrière la chaise, là. Il a dit, je ne dis pas 7 fois, je dis 70 fois 7 fois. Et alors, vous savez, le pardon de Pierre, c'était un pardon à points. Hein, c'est un peu comme le permis français, là, où hein, on perd les points à chaque fois qu'il y a une infraction. Alors lui, pour tout le monde, il y a un pardon à points. Hein, tu as tant de points, tu as 7 points. Quand il n'y en a plus, ben tant pis pour toi. Mais heureusement que Jésus n'a pas de pardon à point. Hein, parce que si Jésus avait un pardon à point pour nous, eh bien, il y a longtemps qu'on n'aurait plus de points. Hein, combien de fois vous avez été pardonné? Et donc, la question que je pose, s'il fallait écrire le Notre Père selon, selon Pierre, on dirait « Impose-nous un pardon à point comme nous imposons en imposant un à ceux qui nous offensent. Hein? » Moi, je pardonne 7 fois et c'est terminé. Alors, toi, tu me pardonnes 7 fois et c'est terminé. Vous croyez que vous avez envie de prier ça? Parce que c'est terminé, hein? Il n'y a plus rien. Et certains vous donnent un peu... C'est malheureusement que même dans certains milieux, on parle du fait que Dieu, il est limité dans son pardon et puis il t'aime plus, et c'est grave quand on... Surtout ne dites jamais à un enfant, Dieu il t'aime plus, il va plus t'aimer, ou maman t'aime plus, ou papa t'aime plus. Ça c'est des trucs graves et c'est pas vrai, et c'est méchant. C'est comme dire à des chrétiens, bah, Dieu il pardonne jusqu'à un point, mais si tu fais trop grave, il ne peut plus pardonner. Tu as exagéré, tu as été au-delà de la limite. Moi je n'en connais pas. Quand Jésus il a dit 70 fois, 7 fois, vous pouvez prendre un petit carnet et marquer combien de fois, et quand vous avez à 490, vous arrêtez, hein, vous dites je ne te pardonne plus, hein, ça y est, tu as ton compte. Vous pouvez le faire, mais je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que une fois que tu as dépassé les 14, quand tu as pris l'habitude de pardonner, tu continues. Hein. Et si nous ne voulons pas que Dieu ait un pardon à point pour nous, eh bien n'ayons pas de pardon à point pour notre frère. Hein, et que motivé par l'amour, eh bien finalement nous voulons. Et le pardon coûte, c'est sûr. Et qui le sait plus que Dieu, hein? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Voilà ce que lui a coûté son pardon. Mais il était assez disposé à pardonner pour donner son Fils. Vous savez, ça me donne une idée, une référence qui me permet de savoir combien il a envie de me pardonner. C'est pas seulement il le fait à contre-cœur. Oh, encore. Toi, tu es pénible. Hein. On ne trouve jamais cette attitude vers Dieu. Il nous répond un peu comme il a répondu à la femme prise en adultère. Il dit, écoute, moi non plus, mais ne pêche plus. Et c'est comme ça qu'il nous... Il dit, tu as mal fait, c'est sûr. Parce que si tu n'as pas mal fait, il n'y a rien à pardonner. Mais puisque tu as mal fait, donc je te pardonne. Mais il reconnaît. Mais après, ne pêche plus, vas-y. Et c'est dans ce sens-là, c'est avec cette attitude-là que Dieu nous parle. Et c'est en fait, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Hein, c'est une manière d'aimer, c'est de pardonner. Plutôt que... Et vous savez, vous vivrez plus longtemps si vous pardonnez tout de suite, hein, que ceux qui ruminent. Reste là la nuit, il fait une nuit blanche parce qu'il est en train de penser, waouh, il agère avec tout ce que j'ai fait, et puis en plus il continue comme ça, et puis après on est en train d'inventer ce qu'on va lui dire quand on le rencontre, et puis après finalement on le rencontre, on ne dit rien. Mais vous savez, le pardon, eh bien, il est généreux. Vous savez, la règle d'or, on en a entendu parler, hein, pas besoin d'être à l'église pour avoir entendu parler de la règle d'or. La règle d'or, c'est celle que Jésus a donnée dans le sermon sur la montagne. Et il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Et tu veux qu'ils te le fassent? Alors tu peux le faire. Tu aimerais bien le recevoir? Alors fais-le. Mais c'est un peu ce que l'apôtre Paul dit ici, hein, dans le verset 10, Romains 13, 10. Il dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et ceci est vrai, même aussi dans la vie de couple. Hein, Pierre va le dire dans son épître, chapitre 4, verset 8. Il dit... Non, Éphésiens 5, 28, il va dire « Car ainsi, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » C'est-à-dire, aime l'autre, aime toi-même au travers de l'autre. Et vous savez, si on commence à pratiquer ça, et bien, personne ne va être perdu, va être perdant. Hein, on aura tous, personne ne sera oublié. Hein, si j'aime au travers de l'autre, je m'aime au travers de l'autre. Mais c'est cet amour. L'amour ne désire pas le mal, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour, donc, ne commet point de meurtre, ne commet point d'adultère, commet point, ne ment point, ne trompe point, ne convoite point. Pourquoi ? Parce que tu ne veux pas le mal. L'amour cherche le bien. Et vous savez, ça me rassure par rapport à Dieu. Ah, l'amour ne cherche pas le mal. Et Dieu me dit qu'il m'aime. Donc il cherche mon bien. Je peux être rassuré en me tournant vers Dieu, en me confiant à lui qui cherche mon bien. Hein, il dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Il a un bon projet pour chacun d'entre nous. Le point faible, c'est nous. Hein. Je lis le dernier verset dans notre passage, là. Romains chapitre 13, verset 10. Il dit « L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Vous savez, dans la lettre aux Corinthiens, Paul écrit, il décrit l'amour. Hein, vous connaissez bien ce passage. Il dit « L'amour est patient. » C'est sûr, quand on est patient, c'est notre comportement que quand on est impatient. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Soupçonner, c'est que je pense qu'il y a, mais je n'ai pas les preuves. Et il dit, tant que je n'ai pas les preuves, je ne le pense pas. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il n'a pas de pardon à point. Il croit tout. S'il n'y a rien pour le contredire, s'il n'y a pas, je le crois, à moins... Sauf si il y a autre chose qui se présente, je crois. Hein? Il espère tout. Il supporte tout. Ça c'est un amour. Et on dit, ah ben j'aime bien être du côté de celui qui reçoit cet amour-là. Et oui, mais si je suis du côté de celui qui reçoit, il faut que je sois aussi celui qui donne. Hein? Parce que l'autre aussi, il aime bien recevoir. Et c'est là où, lorsque, c'est ça qu'il dit au verset 8, hein, il dit, vous aimez les uns les autres. Vous le pratiquez l'un sur l'autre. Paul exhorte, au verset 8, il a dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Qu'il ne puisse pas dire, mais je ne me sens pas aimé. Qu'il ne puisse pas dire « je ne sens pas l'amour ». J'ai l'impression qu'il fait ça par devoir. Hein, c'est le pasteur, il fait le sourire, mais c'est un sourire McDo, là, c'est client. Mais non, que ce soit du vrai. Pierre, dans son épître, nous rappelle une parole que déjà Salomon avait déjà écrite. Il dit, 1 Pierre 4, 8, il dit, « Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Et peut-être que vous vous êtes arrêté là sur ce verset-là et vous dites, mais l'amour couvre une multitude de péchés. Moi, je croyais que la Bible dit que c'est le sang qui couvre le péché, le sang qui remet le péché, qui efface. Il dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Bon, alors si Dieu aime beaucoup, hein, ben, et puis il a l'amour, ben, bon, bonne chance à nous, hein, on passera, puisqu'il aime et l'amour couvre une multitude. Non. C'est dans le côté pratique, vous savez, ça se voit beaucoup dans la vie de couple, ou bien les parents avec les enfants. Vous savez, l'amour, il y a plein de choses qui pourraient irriter, il y a plein de choses, et puis on dit rien, on continue, pourquoi ? Parce qu'on aime. Quand vous aimez quelqu'un, vous l'excusez parce que n'importe quoi. Même il vous dit quelque chose de pas gentil, mais parce que vous l'aimez, vous riez. Mais si c'est quelqu'un d'autre que vous n'aimez pas qui dit la même chose, il m'a insulté. C'est pas tellement ce qui se dit, ce qui se fait, ça, c'est une question de s'il y a l'amour ou pas. Si ma femme ne m'aimait pas, il y a longtemps qu'elle se serait sentie insultée par moi. Hein, je la taquine tout le temps. Il y a un contexte qui est là. Et puis après, bien sûr, vous ne savez pas combien de fois pardonner parce que j'ai laissé traîner les chaussettes ou parce que j'ai... Et vous savez, dans une maison, ça arrive tout le temps. Hein. Bon, de temps en temps, il y a une remarque quand même pour rappeler. Mais il y a beaucoup de pardon. Hein. L'amour couvre une multitude de fautes, une multitude de péchés, une multitude de faiblesses, de manquements. Oh, l'amour est là, elle est constamment. Et finalement, on a besoin de cet amour pour nous tous. Parce qu'on est tous un peu défectueux. Hein. Je dis un peu, c'est pour être gentil, mais on est tous un peu défectueux, on est toujours un peu manquants. Et on a besoin de beaucoup d'amour. Hein, les pièces, elles ne sont pas bien rodées, et donc il faut beaucoup d'huile dans le moteur hein, pour qu'il n'y ait pas trop de friction. Beaucoup d'amour dans nos relations. Et il dit, écoutez, l'amour, il faut un amour généreux, comme celui dont vous bénéficiez de la part de Dieu. Parce que quand il y a l'amour, le pardon, il est presque d'office. Après, ça n'empêche pas de demander pardon, c'est sûr. Mais entre frères et sœurs, où il y a l'amour, ça vient tout seul. Maintenant, vous savez, après tout cela, je commence à comprendre pourquoi ce passage, il est là, et pas au début du chapitre. Parce que finalement, c'est la partie la plus contre nature, donc la plus difficile à mettre en pratique. Hein, et avec, après 46 ans de mariage avec mon épouse, mais ça ne veut pas dire que c'est toujours naturel. Hein. Hein, le travail, il faut l'entretenir, hein, c'est comme un jardin. Hein, ce n'est pas parce que j'ai arraché toutes les mauvaises herbes l'année dernière qu'il n'y en a pas cette année. Passez pas voir. Hein. Mais dans la vie, notre vie, c'est pareil, hein, notre vie personnelle. Hein, c'est constamment besoin d'un entretien. Et cet entretien, ben, en attendant qu'il se fasse, ben, il faut beaucoup d'amour. Et l'amour, eh bien, l'apôtre Paul, il a associé, il a dit, ça c'est un fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la patience, la joie, la paix. Vous savez, c'est l'amour, ça, et sans ça, vous ne pourrez pas vivre, hein. On ne peut pas vivre ensemble, on ne peut pas vivre séparés, on peut être là, un peu soin, l'amour est là. Et vous savez ce qui est extraordinaire, c'est l'amour, ce n'est pas quelque chose que Dieu peut faire. L'amour, c'est ce qu'il est. Il est amour. C'est pas qu'il, seulement, la Bible ne dit pas qu'il aime, elle nous dit Dieu est amour. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment que vous pouvez le trouver où il n'y a pas amour. Ça veut dire que si vous coupez un petit morceau, chaque morceau, il y aura de l'amour. Il est amour. C'est-à-dire, vous rencontrez Dieu dans n'importe quelle circonstance. Et vous sortez de, venez de n'importe quelle direction et de n'importe quel endroit, vous approchez de Dieu, vous trouvez un Dieu d'amour. Oh, il est juste aussi, mais et amour, heureusement pour nous. Et la croix est le symbole qui rassemble les deux. La justice de Dieu, il a dit le péché c'est grave, ça demandait la mort, mais je vous aimais tellement que j'étais prêt à sacrifier mon fils. Et donc la croix est un de ces rares moments dans la vie où la justice et l'amour se rencontrent et vivent bien ensemble. C'est pour ça qu'on parle souvent du fait de se mettre au pied de la croix. Ben, c'est le seul endroit. C'est là où eux se croisent. Hein, c'est là où la justice et l'amour se croisent. Et c'est là qu'il faut se mettre dans ce carrefour-là. Et c'est, vous savez, vu notre état, eh bien, il vaut mieux rester là et près de la croix et constamment faire appel à la croix. Et si vous avez déjà dit, Jésus, je te remercie de ce que tu sois mort sur la croix pour mes péchés, je le crois, je le veux pour moi. Si ça a été déjà fait, eh bien, vous savez ce que c'est et vous voulez continuer parce qu'il dit, le sang de Jésus-Christ, son Fils, pas nous a purifiés de tout péché, mais nous purifie. C'est-à-dire constamment, on en a besoin tout le temps. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché, et c'est pour ça qu'on veut rester là et jouir. C'est pour quelque chose qui est dans une mare est moins propre que quelque chose qui se trouve où il y a un courant d'eau vif. Ça coule constamment. Et en fait, dans notre vie, nous voulons avoir une vie, comme disait le frère tout à l'heure, eh bien, le sang de Jésus-Christ nous purifie, nous lave de tout péché. Et c'est un entretien. Et après, l'Esprit de Dieu, hein, lorsque je reçois le Seigneur Jésus, l'Esprit de Dieu vient habiter en moi, et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et je commence à aimer. Et j'aime, même s'il n'y a rien, il n'y a pas de retour. Heureusement que Dieu, il a cet amour-là, hein, qui aime. Et les gens, lui, il répond, il dit, moi je t'aime. Et l'autre, il dit, je ne crois pas que tu existes. Il dit, je t'aime quand même. Ah non, mais je ne veux pas entendre parler de toi. Ah oui, mais je t'aime quand même. Mais ça, c'est l'amour de Dieu. Et alors, nous, on s'approche et puis Et Jésus, il dit, écoute, n'oublie pas de pardonner ton frère, hein, parce que moi, je te pardonne souvent, hein. Rappelle-toi. Si tu veux regarder les comptes, tu peux. Hein. Mais il n'y a personne qui nous a offensés autant de fois que nous avons offensé Dieu. Et il nous pardonne toujours. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est le produit de l'œuvre de Dieu, de l'Esprit de Dieu en nous. La lecture de la parole, c'est pour ça qu'on encourage tellement à lire la parole de Dieu. Je termine avec ce verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour ne sait pas faire le mal au prochain. L'amour préfère prendre sur soi que de faire du mal. Et nous, on hésite parce que quand même, ouais. Ah oui, mais tu es content hein, quand Dieu l'est. Ben aussi, alors sois. Et Paul nous dit, soyez les imitateurs de Christ. Donc, imitons le Seigneur. Nous sommes là et peut-être on a besoin de demander pardon, que Seigneur, on n'a pas aimé comme on devrait aimer. Et parfois les gens avec qui on est plus dur, c'est ceux qu'on aime le plus. Hein. Des fois c'est le partenaire, on est moins gentil, moins patient avec le partenaire qu'on est avec tous les gens au travail, avec les clients et avec tout le monde. On parle gentiment avec eux, on arrive, même quoi qu'ils disent, on arrive à parler gentiment. Et puis après, le partenaire, on dit... Vous savez que le Seigneur nous aide. Et il faut entretenir cet amour. Bon, je sais que ce n'est pas facile. Je suis fait de la même matière que vous. Mais allons de progrès en progrès. Je suis, comme j'ai un ami quelque part, je suis en construction. Dieu n'a pas fini avec moi. Soyez patients. Je n'ai pas transformé complètement. Que le Seigneur nous aide. Prions les uns pour les autres. Encourageons-nous mutuellement. Et c'est vrai que dans un contexte où on est aimé, c'est plus facile à aimer. On s'encourage mutuellement en s'aimant les uns les autres. C'est sûr. Je vais en prendre quelques instants juste déjà pour vous donner le temps de dire deux mots au Seigneur. En attendant peut-être plus tard dans la journée ou ce soir pour lui dire le reste. Après quoi je prierai. Père Céleste, nous te remercions pour ton amour et combien de fois ici dans cette salle nous avons parlé de ton amour et de ton sacrifice et comment tu as tant aimé que tu as donné ton fils et combien nous avons exprimé par nos prières et nos chants notre reconnaissance pour ton amour pour nous et tout ce que cela représente. Mais Seigneur, tu nous demandes d'aimer en retour. Pas seulement toi, mais de nous aimer les uns les autres. Et toi, tu as aimé des êtres imparfaits, et tu ne nous demandes pas de faire ce que tu n'as pas fait, c'est aimer des êtres imparfaits. Et Seigneur, aide-nous. On n'est pas là pour critiquer la capacité des autres d'aimer, nous sommes là pour nous-mêmes, et de te prendre toi comme modèle. Et Seigneur, encourage-nous, aide-nous. Nous savons que tu comprends notre difficulté et nous n'allons pas faire des excuses pour nos manquements, mais nous te demandons de nous aider, de nous assister. Et Seigneur, que le monde puisse connaître ce que c'est que l'amour de Dieu en ayant affaire avec nous. Et Seigneur, que nous puissions rendre à chacun ce qui lui est dû, de l'aimer. Que nous puissions tout faire pour nous dégager du péché, des engagements, des promesses qui ne sont pas gardées, tout ça, de nous dégager de tout cela pour être libres, pour pouvoir t'aimer et vivre pleinement ton œuvre en nous. Père, merci pour ta parole, merci pour ton enseignement et merci pour ta patience avec nous et ta persévérance. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.